Le psaume 22 se divise à l'évidence en deux parties. La première partie qui a été lue par notre frère et qui est l'annonce prophétique combien solennelle de ce qui serait la part de celui qui est annoncé en fait le Messie souffrant et mourant. Nous avons son histoire prophétique dans cette première partie du psaume qui se termine au verset 21e. C'est donc le tableau de la souffrance et de la mort du Messie, le Seigneur Jésus. La deuxième partie, depuis le verset 22 jusqu'à la fin, nous donne à connaître les conséquences glorieuses d'une telle mort, d'une telle œuvre, l'œuvre de la croix. Une remarque qu'on nous permettra, disons, d'ajouter à propos de cette première partie du psaume 22, c'est que nous avons trois appels douloureux du Sauveur mourant. Trois appels douloureux dans cette première partie. Comme notre frère l'a dit et a insisté là-dessus avec combien de raisons, c'est un terrain tellement saint que l'on craint de ternir par quelques commentaires humains une telle scène. On a conscience de tout le respect, de toute la révérence que nous devons manifester quand nous nous approchons d'un tel psaume, d'un tel sujet, le Sauveur mourant. Trois appels douloureux qu'expriment la douleur intense qui fut celle et de son âme et de son corps. Premier appel au premier verset, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Te tenant loin de mon salut, des paroles de mon rugissement, mon Dieu, je crie de jour, mais tu ne réponds point, et de nuit, et il n'y a point de repos pour moi. Le deuxième appel, au verset 11e, ne te tiens pas loin de moi, car la détresse est proche, car il n'y a personne qui secourt. Et le troisième appel, au verset 19e, et toi, Éternel, ne te tiens pas loin. Ma force, hâte-toi de me secourir. Délivre mon âme de l'épée, mon unique de la patte du chien. Sauve-moi de la gueule du lion. Et alors, maintenant, Dieu répond à de tels appels. Il répond en intervenant en puissance. Et le Seigneur peut le dire lui-même. Tu m'as répondu d'entre les cornes des buffles, c'est là l'annonce de la résurrection glorieuse du Seigneur Jésus. Le Seigneur a été ressuscité par la gloire du Père, il a été ressuscité en vertu de sa propre puissance. Détruisez ce corps, je le relèverai en 3 jours, j'ai le pouvoir de laisser ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Et enfin, le Seigneur Jésus est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit, vivifié par l'Esprit, comme dit l'apôtre Pierre. Le Seigneur est donc ressuscité. Il est sorti vainqueur du tombeau. Avant de descendre dans la mort, il a donc exprimé ses 3 appels. Et lors du 2e, au verset 11, il a dû dire, « Ne te tiens pas loin de moi, car la détresse est proche, car il n'y a personne qui secourt. » Qui est-ce qui pourra sonder une telle solitude? Le Seigneur a été seul, absolument seul, durant les 3 heures de ténèbres de la croix de Golgotha. Il n'y a personne qui secourt. Le livre des psaumes nous présente différents psaumes où le Seigneur Jésus est le sujet central. Ce sont ces psaumes que l'on appelle des psaumes messianiques. Les uns nous présentent ces psaumes que les Juifs n'ont jamais voulu et ne veulent pas reconnaître, qui nous présentent la souffrance du Messie, le Messie souffrant et mourant. Et les autres psaumes nous présentent alors ce Messie glorieux qui doit venir un jour régner sur la terre. Ainsi le psaume 45, ainsi le psaume 72. Dans le psaume 69, nous avons ces paroles que le Seigneur exprime. Nous sommes également au pied de la croix, au verset 20. L'opprobre m'a brisé le cœur et je suis accablé. J'ai attendu que quelqu'un eût compassion de moi, mais il n'y a eu personne. Et des consolateurs, mais je n'en ai pas trouvé. Personne qui me secourt, personne qui a eu compassion de moi. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. Et enfin, au psaume 142, dont nous ne voulons pas dire qu'il est un psaume dont le sujet central soit le Seigneur, mais il y a des paroles qui font penser à la souffrance du Seigneur. Le psaume 142, où deux fois, c'est un très court psaume, et deux fois, nous avons cette mention de la solitude qui fut la part du Seigneur. Au psaume 142, le verset 4, « Regarde à droite et vois, il n'y a personne qui me reconnaisse, tout refuge est perdu pour moi, il n'y a personne qui s'enquiert de mon âme. » Mais alors, il a crié vers son Dieu, j'ai dit, verset 5, « Tu es mon refuge, ma part dans la terre des vivants. Personne qui me secourt, personne qui ait compassion de moi, personne qui me reconnaisse, personne qui s'enquiert de mon âme. » Nous le répétons, qui pourra sonder un jour la solitude qui fut la part de l'âme de notre précieux Sauveur, seul, absolument seul sur la croix. Le Seigneur donc est descendu dans la mort, il n'y est pas resté longtemps, il est ressuscité, et alors, dans la deuxième partie de ce psaume, nous avons les conséquences glorieuses d'une telle œuvre, l'œuvre expiatoire de la croix. On a dit que le psaume 22 était le psaume de l'expiation, comme le psaume 102, psaume merveilleux, dont le sujet est également le Messie et le Messie souffrant. Le psaume 102 est le psaume de la substitution. Nous avons quelque chose du tableau de l'œuvre expiatoire de la croix et, dans la deuxième partie de ce psaume 22, les conséquences glorieuses d'une telle œuvre. Il y a différents cercles de personnes qui sont mentionnés dans ces derniers versets. Il y a tout d'abord l'Église de Dieu, l'œuvre de la croix d'où naîtrait ce peuple nouveau, ce peuple céleste qui s'appelle l'Église ou l'Assemblée du Dieu vivant. J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de la congrégation. Peut-être que quelqu'un ici dira, mais nous sommes dans l'Ancien Testament, comment est-ce qu'il peut être parlé de l'Église? En fait, l'Église est le glorieux mystère dont le Seigneur Jésus a parlé le tout premier et qui a été particulièrement confié à l'apôtre Paul. Mais nous avons le passage de l'Épître aux Hébreux qui nous autorise à voir dans ce verset 22 l'Église de Dieu. Dans cet Épître aux Hébreux, au chapitre 2e, il y a plusieurs citations des psaumes et des prophètes. Et l'apôtre dit au chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux, au verset 11, « Et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, disant, « J'annoncerai ton nom à mes frères au milieu, non pas de la congrégation, mais au milieu de l'assemblée, je chanterai tes louanges. Et voilà la famille de Dieu, la famille des enfants de Dieu qui est introduite et présentée comme étant conséquence infiniment glorieuse de l'œuvre de la croix. Sans l'œuvre de la croix, sans la souffrance et la mort expiatoire de Jésus, pas de famille de Dieu, pas d'enfant de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi, chers amis, pour être un enfant de Dieu, il faut croire au Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, comme notre frère l'a dit tout à l'heure, dans un appel que l'on aimerait que chacun écoute et reçoive, voilà pourquoi il faut regarder à la croix du calvaire pour être un enfant de Dieu. Il faut croire en Jésus. Il faut croire en Christ qui est mort pour nos péchés. Il faut croire en Christ qui est ressuscité pour notre justification. Si tu crois en Jésus, tu deviens certainement un enfant de Dieu. Que ce soit la part de tous les nombreux assistants ici présents. Que tous puissent regarder, diriger ce regard de foi. Mais voici Dieu qui ne demande même pas une parole. Il ne demande même pas une parole. Il ne demande même pas qu'on dise quelque chose. Comme lors de l'épisode impressionnant du serpent des reins à la fin du voyage dans le désert du peuple d'Israël. Il s'agissait simplement de regarder. Celui qui regardera en haut, vers le sommet de la perche, il vivra. Dieu demande qu'on regarde vers celui qui est représenté par le serpent des reins, vers le Seigneur Jésus. Un seul regard, mais le regard de la foi, pas ce regard d'indifférence ou ce regard de commisération, ce regard dont on nous a parlé tout à l'heure, quand il est dit « il me contemple », pas ce regard-là, le regard de la foi vers Jésus mourant sur la croix, mourant à cause de nos péchés. Si je regarde avec foi vers la croix de Jésus, j'ai l'assurance d'être aussitôt un enfant de Dieu. C'est tout ce que Dieu demande, un regard, mais le regard de la foi. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Comme autre conséquence de l'œuvre de la croix, dans ce psaume 22e, nous avons un autre cercle à côté de l'Église ou de l'Assemblée du Dieu vivant. Nous avons le peuple d'Israël lui-même. Verset 25, de toi vient ma louange dans la grande congrégation. Je paierai mes vœux devant ceux qui le craignent. Le peuple d'Israël connaîtra à nouveau les beaux jours quand lui-même aura regardé avec foi vers celui qu'on mis à mort. Puis nous avons les nations. Le Seigneur sera la cause, sera l'auteur d'une riche bénédiction pour toutes les nations à la fin des jours. Cela aura lieu dans ce qu'on appelle le millénium, le royaume millénaire du Christ, dont on nous a parlé plusieurs fois dans ces soirées. Il nous est dit, en effet, au verset 27, « Tous les bouts de la terre se souviendront et ils se tourneront vers l'Éternel, et toutes les familles des nations se prosterneront devant toi, car le royaume est à l'Éternel et il domine au milieu des nations. » Toutes les familles des nations viendront à Jérusalem pour apporter leurs oblations, pour apporter leurs offrandes à celui auquel seul appartient le royaume. Et celui auquel seul appartient le royaume, c'est le Christ, c'est le Messie, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et enfin, il nous est parlé encore du peuple d'Israël, mais alors le peuple d'Israël vu comme un peuple naissant, comme un peuple nouveau, comme un peuple qui est appelé souvent dans l'Ancien Testament le résidu, un résidu. Et ce résidu d'Israël sera alors le centre de ce qu'on appelle l'Israël millénaire, c'est-à-dire du peuple d'Israël restauré, qui sera là dans sa terre, qui aura passé par ces exercices de conscience terribles durant ce temps que les prophètes appellent la grande tribulation. Après cette grande tribulation, les enfants d'Israël reconnaîtront leur Messie et ils deviendront ce résidu repentant et confiant. Ils deviendront le sens de ce peuple d'Israël durant le règne de 1000 ans. C'est ce que nous avons tout à la fin du psaume quand il nous est dit au verset 30e, une semence le servira, elle sera comptée au Seigneur comme une génération. Ils viendront et raconteront sa justice à un peuple qui naîtra, qu'il a fait ces choses. L'Église, le peuple d'Israël d'une façon générale, les nations, toutes les familles des nations, et puis le résidu d'Israël, centre de l'Israël millénaire. Voilà le Seigneur, auteur de toute bénédiction pour ces différentes sphères, à commencer pour l'Église, le peuple céleste de Dieu, l'Église, l'ensemble de tous les croyants, de tous ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur Jésus, le Sauveur parfait que Dieu nous a donné. Nous lisons encore le psaume 23e. Nous ne serons pas longs, nous n'en parlerons que d'une façon sommaire, et disons-le peut-être d'autant plus que ce psaume est extrêmement connu, mais il demeure toujours la source d'une bénédiction nouvelle pour l'âme qui s'attache à sa lecture. Psaume de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène à des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. Tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis. Tu as oint ma tête d'huile, ma coupe est comble. Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Les psaumes 22, 23 et 24 forment un ensemble, ensemble qui lui-même appartient à un plus grand ensemble qui part du psaume 16 et qui aboutit au psaume 24. C'est un grand tout que nous avons là où le Seigneur Jésus occupe la place première du psaume 16 au psaume 24. Et alors, à la fin de cette importante série de psaumes, nous avons ces trois psaumes, 22, 23 et 24. Psaume 24, qui est véritablement la digne et glorieuse conclusion de tout l'enseignement prophétique de l'ensemble de ces psaumes, et plus particulièrement les psaumes 22, 23 et 24. Au psaume 22, nous avons donc le Seigneur Jésus vu tel que la victime. Il est la victime expiatoire. Nous le répétons, nous ne nous approcherons jamais avec trop de révérence d'un tel psaume. En s'approchant du psaume 22, c'est s'approcher de la croix elle-même, c'est s'approcher de Jésus-Christ crucifié, c'est s'approcher de la douleur intense qui fut la sienne et que nous avons vu exprimer par ces trois appels dans la première partie du psaume. Au psaume 23e, il nous est parlé d'une brebis et d'un croyant comparé à une brebis et qui met sa confiance dans le bon berger. En fait, qui est-ce qui a réalisé à la perfection cette confiance et cette dépendance totale? C'est le Seigneur Jésus, l'homme parfait sur la terre. C'est lui qui tout d'abord a été cette brebis dont parle le psaume. Il a réalisé lui-même cette dépendance et cette confiance si magnifiquement exprimées dans ce psaume 23. Et alors, après avoir réalisé, avoir été lui-même le premier dans un tel chemin, la brebis du psaume 23e, alors, il est, pour employer l'expression de l'épître aux Hébreux, il est consommé, c'est-à-dire qu'il est démontré comme étant apte à être le berger dont nous parle le psaume 23, le bon berger dont parle le Seigneur Jésus, le grand berger des brebis et le souverain pasteur de nos âmes dont parlent les apôtres. Nous avons donc là le Seigneur Jésus, après avoir été lui-même cette brebis confiante et toujours dépendante du berger, c'est-à-dire Dieu lui-même, Dieu son Père. Nous le voyons maintenant tel que le berger. Et alors, le croyant est appelé à devenir lui-même, il l'est. Nous avons dit que si nous croyons au Seigneur Jésus, nous devenons des enfants de Dieu, nous appartenons à la famille de Dieu. De la même manière, nous pourrions dire, nous devenons des brebis du cher troupeau du Seigneur. Et nous avons là maintenant le croyant comparé à une brebis, et c'est lui-même qui va nous dire ce que le berger est pour lui-même. Comme il arrive très souvent dans les psaumes, le premier verset nous donne, pour ainsi dire, la note générale de tout l'ensemble du psaume. Dans notre psaume, le psaume 23e, au premier verset, nous avons la providence même de notre bon berger. Il est celui qui prévoit, il est celui qui pourvoit à tout. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est là la providence du bon berger. En quoi se manifeste cette providence? Quelles sont les bénédictions qui se rattachent à cette divine providence? Tout le reste du psaume nous le montre. Tout d'abord, le repos et la nourriture et les rafraîchissements de l'âme. Il me fait reposer, voilà le repos, dans de verts pâturages, voilà la nourriture. Il me mène à des eaux paisibles, voilà les rafraîchissements dont notre âme a toujours besoin. Nous avons ensuite la direction de ce bon berger. Il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Il me conduit dans des sentiers de justice, dans des sentiers où Dieu est glorifié, à cause de son nom qui est invoqué sur chaque croyant. Nous avons ensuite la présence et la consolation du bon berger. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. Nous avons les consolations du bon berger, la parole de Dieu, et le trésor des consolations pour notre âme. Nous l'avons dit dans la prière, bientôt nous connaîtrons l'éternelle consolation quand nous serons consolés dans la Jérusalem d'en haut. Tu es avec moi. C'est véritablement des mots très simples. Il n'y a pas besoin de courir au dictionnaire pour comprendre ce que veulent dire ces mots. Tu es avec moi. Un petit enfant les saisit d'emblée. Et quelle richesse de bénédiction dans ces simples mots. Tu es avec moi. Un conducteur du siècle passé et d'une bonne partie de celui-ci pouvait dire, arrivant à la fin de sa carrière, je suis extrêmement heureux de m'en aller auprès du Seigneur. Ce que je désire réaliser avant qu'il vienne me chercher, c'est sa présence personnelle, exprimée par ces mots, tu es avec moi. Et je crois, dit-il, que c'est là ce que nous avons tous à rechercher. Tu es avec moi, la présence personnelle du Seigneur, comme il est dit dans l'épître aux Philippiens, le Seigneur est proche, il est près de nous. nous avons besoin de réaliser, pas seulement à l'heure du rassemblement, mais dans notre vie de chaque jour, réaliser dans nos allées, dans nos venues, dans nos diverses occupations, que le Seigneur est là avec nous. Tu es avec moi. Nous avons ensuite, au verset cinquième, nous avons la communion, nous avons l'onction, et enfin un bonheur parfait. Ce que l'apôtre Paul appelle la béatitude. Tu dresses devant moi une table, expression de la communion en présence de mes ennemis, tu as oint ma tête d'huile, voilà l'onction du Saint-Esprit, et ma coupe est comble, je n'ai plus rien à désirer, j'ai tout auprès d'un tel berger, objet de sa providence, ma coupe est comble. C'est là l'expression d'un bonheur parfait, l'expression de la béatitude, l'expression de cette félicité que bientôt, sans fin, nous connaîtrons. Dans cette providence de notre bon berger, la bonté, la gratuité, et puis un avenir assuré. Elles me suivront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Pour de longs jours, dit le croyant ici, au psaume 23, de longs jours, pour longtemps, et le croyant aujourd'hui peut dire pour toujours et éternellement. Pas seulement pour de longs jours, mais pour toujours. Pas seulement pour longtemps, mais éternellement. Notre place sera non pas dans la maison de l'Éternel, mais dans la maison du Père que le Seigneur Jésus nous a révélée. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si je m'en vais, je reviendrai, je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi. Je m'en vais vous préparer une place. Sommes-nous tous assurés d'avoir cette place dans les demeures de la maison du Père? Sommes-nous tous assurés? Pouvons-nous parler d'un avenir éternellement assuré? Sommes-nous absolument tranquilles à cet égard? Est-ce que nous savons que si le Seigneur Jésus venait ce soir, nous partons à sa rencontre pour occuper cette place qu'il nous a préparée? Dieu veuille que chacun ici puisse dire « Je suis prêt ». Si Jésus vient ce soir, je sais que je pars à sa rencontre avec la multitude des rachetés de ceux qui ont mis leur confiance en son nom pour aujourd'hui, pour demain et pour toujours. La maison de l'Éternel, pour David, le temple de l'Éternel, à Sion, à Jérusalem. Et alors, nous assistons au psaume 24e, nous arrivons à cette montagne de Sion, à cette maison de l'Éternel, nous assistons à ce temps, nous entrons littéralement dans ce temps de l'Éternel. Si au psaume 22, nous avons Christ, victime expiatoire, au psaume 23e, nous avons Christ, le bon berger, au psaume 24e, nous avons alors Christ, le roi de gloire. Mais le temps est arrivé, ce serait dommage de commencer la méditation de ce psaume qui par ailleurs est extrêmement enrichissant. La lecture est extrêmement enrichissante. Ça a été l'objet d'une étude dans notre pays il n'y a pas très longtemps et nombreux sont les assistants à cette réunion d'études qui ont pu se rendre compte que le psaume 24e, que nous lisons moins souvent que le psaume 22 et le psaume 23, est la source d'une méditation extrêmement enrichissante pour notre âme. Il est le roi de gloire, un jour il entrera par ses portails éternels, il entrera dans sa gloire, la gloire du règne de mille ans. Que le Seigneur nous accorde à tous de connaître le Seigneur Jésus pour notre sauveur personnel, pas seulement pour le sauveur du monde, pas seulement pour notre sauveur, mais pour notre Sauveur personnel, que nous puissions dire mon Sauveur, le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, que nous puissions être assurés d'être des enfants de la famille de Dieu, d'être des brebis du cher troupeau du Seigneur Jésus, que nous puissions connaître les tendres soins de sa providence, de sa bonté et de sa gratuité, qu'enfin nous puissions nous réjouir en sa venue glorieuse, tel que le roi de gloire. Le chrétien ne connaît pas le Seigneur comme étant le roi. On lit souvent dans des... C'est écrit dans le meilleur esprit qui soit, mais on lit souvent dans des cantiques, « Ô Jésus, mon roi, mon ami, mon roi !» Et pourquoi est-ce que le chrétien n'invoque pas le Seigneur Jésus comme étant son roi? Mais c'est très simple. Où est-ce que dans les Épîtres, il est parlé du Seigneur Jésus comme étant notre roi? Où est-ce que l'apôtre Paul parle de Jésus comme étant son roi? Et l'apôtre Pierre et les autres apôtres aussi. Où est-ce qu'il parle de Jésus comme étant le roi? Le chrétien ne connaît pas Jésus comme étant le roi. Il se réjouit de sa venue glorieuse sur la terre comme étant le roi de gloire. Mais présentement, il ne connaît pas Jésus comme étant le roi. Mais comme étant le Seigneur. Il est ton Seigneur, adore-le, à notre Seigneur, son dû, toute obéissance et toute soumission, que nous puissions reconnaître tout son autorité ce soir, nous y soumettre et nous y soumettre de cœur jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à son prochain retour, lorsque alors il nous introduira dans les demeures de la maison de son Père, devenue par lui notre Père.